Mesdames, Messieurs, chers amis, si par hasard, mais je suis certain que tel n'est point le cas, si par hasard l'un d'entre vous s'était endormi ce matin dès 9h, et puis juste réveillé pour déjeuner, puis rendormi ensuite pour la sieste, et se réveillait maintenant. Et si l'un de ses voisins lui disait « Oh, tu sais, tu n'as rien perdu parce qu'on n'a fait qu'entendre les violons doux habituels, la petite musique, la beauté des mots, la poésie des images. » Ne le croyez pas, c'est pas vrai. Cette journée a été exceptionnelle. Elle a été importante. Elle a été riche. Et elle a été riche aux différents étages qui méritent d'être visités pour étudier le problème. Et je vais résumer la richesse de cette journée à travers les valeurs, les principes nécessaires pour que ces valeurs s'appliquent, les moyens pratiques qui correspondent à la mise en œuvre de ces principes, et enfin la République. Tout d'abord, les valeurs. Dans valeurs, il y a ce qui vaut, ce qui est important. L'idée de valeur concernant la personne renvoie le plus naturellement à la notion d'une qualité qui est commune entre toutes les personnes en tant qu'elles sont des personnes humaines et qui ne permet pas de les discriminer suivant une quantité plus ou moins importante de cette qualité. Et en règle générale, on appelle ça la dignité. Tous les hommes naissent et demeurent égaux en dignité et en droit. Notion essentielle et bien évidemment, cette dignité-là, égale à celle de tout autre, n'est affectée en rien par un handicap constitutionnel. N'est pas non plus affectée par le vieillissement, par les conditions, car c'est une qualité intrinsèque à la personne en tant qu'elle est une personne. Cette notion de valeur étant rappelée, et bien évidemment, pour revenir à un propos de Pascal Jacob juste avant la pause du déjeuner, il n'est pas question d'évaluer la valeur des individus, puisque par définition, elle ne peut pas être quantifiée, mesurée, hiérarchisée. Elle existe en tant que telle. En revanche, l'on peut évaluer la valeur comparée de toutes les méthodes qui permettent de respecter justement cette valeur. Ça, c'est un autre problème. Les principes, maintenant, qui, en quelque sorte, sont la mise en œuvre dans la vie réelle et en relation avec le handicap de cette qualité intrinsèque aux personnes en tant qu'elles sont humaines. L'une d'entre elles peut sembler singulière et relativement secondaire, elle est fondamentale. C'est le bien-être. Le bien-être. Si nous avons de la valeur, comment ne pas considérer que celle-ci implique avant tout que notre bien-être soit un objectif d'une totale, d'une absolue légitimité. D'ailleurs, on a rappelé ce matin que la meilleure définition de la santé renvoie au complet bien-être. Et quel est le but du rétablissement de la santé, si ce n'est d'atténuer le mal-être d'être malade ou d'avoir une infirmité afin de rétablir les conditions d'un meilleur bien-être. Donc, cette notion de bien-être est tout à fait essentielle. Maintenant, il y a des conditions dérivées. Ces conditions dérivées, compte tenu du fait qu'il s'agit du bien-être d'une personne, incluent forcément l'aspect relationnel avec les autres personnes. Le bien-être d'une personne, dans quelque situation que ce soit, implique la qualité de la relation humaine avec d'autres personnes. Et cela est encore plus vrai lorsque les personnes sont de plus handicapées. Les machines, l'informatique, dans tout cela, offrent aujourd'hui un ensemble de méthodes absolument fondamentales, mais jamais pour remplacer la dimension de l'humain. Jamais remplacer ce en quoi l'on est soulagé d'un regard, d'un sourire, d'une expression, de la douceur d'une parole ou d'un effleurement. Cela est irremplaçable. Cela étant dit, il y a énormément de tâches que les humains mettent en œuvre, qui leur incombent et qui aujourd'hui peuvent être mises en œuvre par des machines, par le numérique. Par conséquent, la bonne considération de l'apport de la connectivité, de l'apport de tout ce nouveau monde-là, et qu'il permet de focaliser la dimension de l'humain sur ce qui lui est propre et ne peut être remplacé par la virtualité in silico, qui est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il s'agit d'un auxiliaire de l'humain, d'un auxiliaire qui peut être absolument considérable, et chaque fois que d'auxiliaire cela devient en fait une manière de faire l'économie de l'humain, alors se posent des questions qui pourront être à terme relativement redoutables. Le deuxième principe fondamental qui est lié à cette qualité qui nous est propre, c'est l'autonomie. Nous sommes des êtres agissant et ayant la possibilité d'agir de la manière que nous avons déterminée, en fonction de différents paramètres. Et cela est naturellement vrai des personnes handicapées comme de tout autre. L'autonomie a une signification lorsqu'il s'agit, pour une personne, d'indiquer la manière dont elle veut l'exercer pour le cours de sa vie ou bien pour les mois, les années à venir. Ça s'appelle un projet de vie. Le bien-être d'une personne handicapée comporte notamment que l'on facilite par tous les moyens possibles la possibilité que cette personne participe elle-même à l'établissement d'un projet de vie. L'autonomie, évidemment, est accrue par l'accès à l'éducation, et c'est la raison pour laquelle, à côté de l'accès à la santé, et d'ailleurs l'accès à la santé est la condition parfois de l'accès à l'éducation, l'accès à l'éducation est un moyen d'éviter la double ou triple peine. Une personne est handicapée, en plus elle est mal soignée, elle est mal éduquée, et donc pour ces trois raisons successives, son autonomie est diminuée. Élément absolument essentiel. Nous l'avons vu, l'autonomie est toujours un objectif fondamental au même titre que la dignité, et elle en fait partie. Cela étant dit, dans la réalité des conditions, elle peut nécessiter d'être atteinte sous la forme d'une autonomie partagée. Et tout existe entre les personnes souffrant d'un handicap sensoriel ou moteur qui ont une totale autonomie pour en tout cas décider d'un projet de vie, et d'autres personnes qui sont également en difficulté pour accéder à cette autonomie-là. Et alors, l'être hybride, qui est celui auquel en particulier les soignants auront affaire, c'est ce couple, ce siamois en quelque sorte, de la personne handicapée, de ses aidants et de ses accompagnants. J'inclus en disant cela les aidants et accompagnants familiaux, mais également les aidants et accompagnants non familiaux, dont tout dans l'évolution de nos sociétés indique qu'il faudrait que leur nombre se multiplie et que les conditions existent pour que leur nombre se multiplie. Cette notion de l'aidant, elle est totalement essentielle. On en a parlé il y a un instant. C'est que parmi ce bien-être, il faut éviter de tomber malade. Pour éviter de tomber malade, il faut qu'il y ait une médecine préventive, il faut qu'il y ait une éducation à la santé, mais suivant le degré d'autonomie individuelle ou alors cette autonomie partagée, ce qu'il faut naturellement parfois, c'est qu'il y ait une éducation à la santé, notamment des aidants, notamment des accompagnants. Mais alors, une difficulté considérable. Nous avons entendu dans l'atelier auquel j'ai participé un témoignage très bouleversant, mais il y en a des milliers comme cela. Il était là, assis dans un de ces sièges rouges de cet amphithéâtre. Cette dame nous a dit que sa vie, dont elle était fière, une belle vie, s'était passée avec un garçon qu'elle avait, qui avait 35 ans aujourd'hui, qui avait une déficience intellectuelle extrêmement sévère, à qui elle avait appris maintes choses, et sa vie c'était celle-là. Et que, en effet, elle ne pouvait envisager, elle avait du mal à envisager son existence à elle-même en dehors de ce fils, et elle ne pouvait pas envisager l'existence de ce fils en dehors de sa relation à elle-même. Mais alors là, il y a un point qui est d'une extrême importance, on n'a pas pu en parler, et c'est le moment peut-être dans cette conclusion de réattirer l'attention. Le handicap est épidémique. Je m'explique. L'aidant d'une personne handicapée va finir, si on ne l'aide pas, lui aussi, à être très handicapé par la charge de l'aide. Très handicapé. Et bien évidemment, un aidant handicapé à aider aide moins bien. Et il y a là une priorité tout à fait essentielle. On a discuté des conditions pour que cette priorité soit réalité. Possibilité de souffler, possibilité de recevoir toute l'information, toute l'aide. Tout cela doit être effectivement détaillé. Mais il y a autre chose. Il y a dans le tête-à-tête entre un aidant, un accompagnant et une personne handicapée aimée et aimante, il y a un tête-à-tête qui peut être enfermant, qui peut être désocialisant. Et par conséquent, aider les aidants, c'est également de toutes les manières qu'on le peut, créer des lieux de vie, créer des groupes de parole, de telle sorte que ces personnes n'aient pas l'impression d'être, non pas abandonnées, elles ne le sont pas, mais néanmoins laissées dans leur solitude de leur tête-à-tête, qu'elles ne remettent pas en question. Mais tout le monde comprend combien ce tête-à-tête peut être extraordinairement pesant. D'autre part, dans ces lieux de parole, par l'intermédiaire desquels l'éducation à la santé, l'éducation à la médecine préventive peut également passer, à une autre dimension qui a été soulevée. C'est que dans ce travail d'une vie, dans cet investissement d'une vie, dans cette manière de vivre d'une vie, il y a un savoir profane considérable qui se développe, absolument considérable. Et l'une des manières les plus riches d'aider les aidants est à la fois de leur permettre de faire profiter les autres de leur expérience et de profiter de l'expérience des autres. Un élément vraiment tout à fait fondamental. Les moyens, on en a parlé, les moyens de faire en sorte que ces principes-là soient appliqués, c'est les résultats et les conclusions des ateliers dont Pascal Jacob vous a énuméré et détaillé parfois les différentes propositions. On n'a pas beaucoup parlé, parce que ce n'était pas le sujet, de la prévention primaire du handicap. Mais je vais tout de même en parler un tout petit peu pour vous rendre hommage. Quand j'ai dit vous rendre hommage, à vous mesdames les réunionnaises et à vous messieurs les réunionnais. J'ai entendu plusieurs fois affirmer et rappeler combien le syndrome d'alcoolisation fœtale engendrait nombre de handicaps dans ce département et faisait des dégâts. Mais en réalité, mesdames et messieurs, pas plus dans votre département que dans d'autres. Pas plus. Et sans doute, si l'on allait voir dans le Nord-Pas-de-Calais, en Basse-Normandie ou ces zones-là, je pense que la situation n'est pas meilleure. Ce qui vous caractérise, et ce qui dit que Yes, we can. Vous devez, vous devez vous le prendre fièrement comme une devise propre. C'est que vous êtes mobilisé de manière tout à fait magnifique pour cela, de manière insuffisante, mais de manière magnifique. Ce qui est vrai, c'est que la conscience collective du département réunionnais, des médecins réunionnais, des équipes réunionnaises, à ce fléau épouvantable qu'est le syndrome d'alcoolisation fœtale, est d'un très haut niveau, et je pense que vous avez la possibilité de montrer l'exemple comme cela. Je vais maintenant en arriver directement à ce quatrième terme que j'ai évoqué pour résumer, et qui a été évoqué par d'autres que moi, qui est la République. Mais qu'est-ce que notre entretien, qu'est-ce que notre convention sur l'accès à la santé des personnes handicapées a à voir avec la République? Il a tout à voir. En réalité, il s'agit d'un très remarquable exercice sur les différentes manières, face à l'adversité, aux difficultés, de faire vivre la République. La République, nous connaissons ses devises, elles sont inscrites au fronton de nos monuments: liberté, égalité, fraternité. Or, quel est le handicap constitutionnel? C'est une condition telle que l'exercice par les personnes handicapées de leur liberté est plus difficile que chez les valides. Et ils sont néanmoins des citoyens, et nous avons discuté des moyens de faire en sorte que cette règle absolue, la liberté, soit effectivement aussi importante pour quelques personnes handicapées que ce soit que pour toutes les personnes valides. L'égalité, bien entendu, car s'il n'en était pas ainsi, il s'agirait d'une négation de ce principe d'égalité. Et enfin la fraternité, parce que ce devoir de fraternité envers celle de nos sœurs, ceux de nos frères, nous l'avons dit, qui sont les plus fragiles, c'est la mise en application du troisième terme de cette devise que nous faisons nôtre et que nous avons honoré aujourd'hui: liberté, égalité, fraternité pour tous, évidemment aussi pour les personnes handicapées.